Radio Capi, grand témoin.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Alain Irung Mouchige. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver chaque dimanche dans l'émission Grand Témoin. Aujourd'hui, Grand Témoin reçoit le professeur Deo Gracias Kimenya. Il est recteur de l'université de Kindu dans la province du Maniema. Mesdames et messieurs, soyez le bienvenu et merci de nous recevoir chez vous. Professeur Deo Gracias Kimenya, bonjour.
Bonjour, monsieur Alain Hiron.
Comment allez-vous, professeur?
Je vais bien, merci.
Merci de nous recevoir dans votre bureau et de nous accorder de votre temps.
C'est la moindre des choses.
Je vous en prie. Commencez, professeur, par nous présenter l'université de Kindu. L'université existe depuis combien de temps? Quelles sont les différentes facultés que vous y organisez?
Merci. Lorsqu'on doit appréhender la présentation de l'université sur le plan de la façon dont elle fonctionne, comment elle est née, je pense qu'il faut répartir cette présentation en trois parties. L'université de Kindu a une période prénatale de naissance, une période natale et une période postnatale, comme nous le disons dans le cours de psychologie génétique.
Tout à fait. Commençons par la période prénatale.
Oui, merci. La période prénatale se situe autour des années 1990. Il faut dire que l'université de Kindu, sa naissance quoi, a germé de la tête d'une personne. Cette personne-là, c'est un professeur, le professeur Pierre Lokombe Kitete, qui est natif de Kindu. Lorsqu'il revenait de Genève où il est allé présenter sa thèse, nous avons compris que la naissance a germé de sa tête. Il nous a réunis, nous étions encore assistants, mais en dehors de nous-mêmes qui vous parlons, il y avait des professeurs, des chefs de travaux, des assistants de chez nous qui ont reçu l'invitation. Il y avait aussi le professeur Louaï Anyama Louaï, qui est à Kinshasa, notre ancêtre, il est encore en vie. Il était même le professeur du professeur Lokombe. C'est lui qui nous a réunis pour nous dire qu'actuellement, il y a une dynamique autour de la manière dont nous devons étudier dans le pays, parce que le pays a besoin de ressources. Et ces ressources-là peuvent aussi être recrutées au niveau de notre propre terroir. Partout dans le monde, il y a des universités. Je vous appelle à réfléchir avec moi pour matérialiser l'idée que je vous apporte. Est-ce qu'on ne peut pas créer une université chez nous pour mettre fin à ces navettes-là qu'effectuent nos enfants là-bas? Vous savez que venir par bateau, c'est un problème. Voyager par avion, un autre problème. Et puis, ça coûte cher dans nos familles dont le pouvoir d'achat est vraiment au bas de l'échelle. Moi, je pense qu'il est nécessaire que nous réfléchissions pour aussi créer une université du Maniema sous la fondation que je voudrais vous dire, j'ai baptisé Fondation Universitaire du Maniema. L'idée a fait du chemin sur place là-bas. Il y en a qui se disaient à ce moment-là, aux années 90, c'était typiquement une innovation ou peut-être une impossibilité de créer une université dans une ville qui se recherchait comme celle de Kindu où il n'y avait même pas de route asphaltée à ce moment. Alors il y a eu des débats. Et nous nous sommes séparés le premier jour, pratiquement en queue de poisson. Mais la plupart de nos frères, nos sœurs qui ont pris part à cette rencontre ont trouvé que cette idée-là était porteuse d'espoir. Il fallait faire quelque chose. Nous nous sommes séparés, en tout cas sans un avis concluant pour nous tous. Mais le professeur ne s'est pas fatigué. Il a continué, une deuxième réunion a eu lieu. Et je voudrais ici rappeler à nos frères et sœurs du Maniema que cette première réunion a eu, c'est fait comme ça. C'était un entretien. Mais le jour prochain, on devait se rencontrer. Il fallait d'abord commencer par nous rappeler ce qu'on a dit avant.
Tout à fait.
Oui. Alors, des bribes d'idées tombées. À la fin de compte, on a regretté que nous n'ayons pas eu un secrétaire rapporteur. Je leur ai dit que moi, je pouvais faire. Je pouvais présenter un PV. Est-ce que vous notiez? Dit non, non, je suivais. Ce jour-là, on m'a demandé alors, moi, de prendre le PV.
Comme secrétaire rapporteur.
Comme secrétaire improvisé. Rapporteur improvisé. L'autre jour, j'ai amené mon PV qui a été, monsieur Alain Hiron, applaudi. On m'a consacré comme secrétaire de la Fondation Universitaire du Maniema. L'idée, à un moment donné, parce que nous étions en période d'examen, a essayé de quitter vraiment nos pensées. Le professeur Lokombe ne s'est pas fatigué. Il a lancé aux amis de Kinshasa. Les amis de Kinshasa ont aussi réfléchi. Et petit à petit, ça faisait du chemin jusqu'à ce qu'un jour il nous dira que En tout cas, sous peu, notre université naîtra. Et après un moment, il nous a informé que la fondation universitaire du Maniema, basée à Kinshasa, avait suffisamment pris contact avec les autorités, que je vous dis avec espoir aujourd'hui que notre université, nous l'avons déjà acquise. Il ne reste que de matérialiser cette acquisition de notre université. Après un certain nombre de mois, ça fait même des années, de 90 à 93, nous avons appris que notre université a obtenu un arrêté de création.
Là, c'est la période natale.
C'est la période natale. La période prénatale, c'est...
On s'est recherché
ouais,
encore.
Oui, on réfléchissait, on se recherchait. Et c'est le 17 juin 1993 que le professeur Lokombe nous a parlé de la date de la création. Donc l'université de Kindu a été créée le 17 juin 1993. Et c'est à cette date-là même que des démarches ont été menées pour que l'information arrive au niveau de Kindu. On a annoncé que c'est ça la date de naissance. Et cette naissance-là, c'était une période, je dirais, de la première enfance. L'université a commencé ici à Kindu à partir de ces dates-là, pas à la même date, mais un moment après, donc sous le hangar de l'ex-entreprise Co-Hydro de Kindu. C'était à la signature du ministre Ndoudi Ndoudi, sous l'appellation du centre universitaire du Maniema.
Alors à l'époque, il y avait combien de facultés quand ça commençait?
À l'époque, là nous allons un peu plus vite, parce que j'allais vous dire que...
Je vous en prie, allez-y.
La première faculté qui est née, c'est la faculté de médecine, puis la faculté de droit. Ce sont des facultés qui sont nées aux années 94, 95, 96. Nous avons eu d'abord la faculté de médecine, la faculté de droit. Une année après, nous avons acquis la faculté de sciences sociales, administratives et politiques. Deux ans après, c'était la faculté des sciences agronomiques et la faculté de sciences économiques et de gestion. Et enfin, c'était la faculté de psychologie et sciences de l'éducation à laquelle est attaché le département des sciences de l'information et de la communication. Donc jusqu'à là, nous sommes à six facultés.
Pourquoi le choix de la médecine, du droit, de l'agronomie, de l'économie, de la psychologie, aujourd'hui de la communication, oui, pour une province comme le Maniema qui a beaucoup de problèmes d'enclavement, des problèmes de cité? Pourquoi le choix de ces facultés?
Bon, il faut d'abord dire qu'il a fallu que nous ayons une université d'abord.
Oui.
Effectivement, c'est aussi à la suite de la demande de la population. La population a plutôt plus imploré que la faculté de médecine soit ici, parce que nous avions des médecins, tous venaient d'ailleurs, ils ont voulu que nous puissions commencer par là. La question que vous posez est très pertinente. Il a fallu que des facultés qui peuvent nous permettre de participer ou de favoriser le développement du Maniema, et parmi lesquelles nous avons pensé à la faculté des sciences agronomiques, parce que le Maniema a une vocation agricole. Le Maniema est grenier ou était grenier de la province du Kasaï oriental, Kasaï occidental, même les pays limitrophes ici. Donc sur le plan du développement, en fait, on n'a pas bien pensé pour parler des facultés des sciences technologiques et autres. Et puis c'était ça à la mode dans le temps. Quand vous parlez d'une faculté des sciences agronomiques, bon, nous avions des écoles secondaires agricoles qui ne recrutaient pas beaucoup d'élèves. On a pensé que ce sera autant pour les facultés. C'est ainsi qu'on a misé plus sur les facultés qui sont organisées ailleurs, qui arrivent à drainer un grand monde. Et il fallait aussi compter sur la viabilité de cette institution. Si on prenait la faculté des sciences technologiques ou informatique qui n'existait pas encore à ce moment-là.
À l'époque, oui.
Ouais, à l'époque, on n'aurait pas même 10 étudiants. Il a fallu que la faculté vive d'abord. Voilà pourquoi on a tenu à ce que ces facultés qui avaient déjà un ancrage sur le pays, la population, à être aussi ouverte chez nous.
Avec toutes ces six facultés, vous avez à peu près combien de professeurs de l'UNIKI ici, combien de visiteurs, combien d'assistants, combien de doctorants par exemple?
Je vais commencer par les doctorants.
Je vous en prie.
Nous venons d'ouvrir ici en partenariat avec l'université de Kisangani, le troisième cycle, où nos propres doctorants, il y a 92 qui sont des chefs de travaux et assistants. ce sont des doctorants, mais il y a deux qui sont des thésards. Ces deux-là, parce que je n'ai pas terminé de vous parler de la manière dont l'université a évolué, à partir de 94, l'université de Kindu a connu de problèmes réels de fonctionnement. Parce qu'en tant que jeune université, elle ne pouvait pas continuer sans ressources, sans infrastructures. Il a fallu qu'il y ait des bâtiments, il a fallu qu'il y ait des locaux.
Que ce soit viable. Hein.
Alors en 94, une première évaluation s'est faite. Elle a chuté, du moins cette évaluation a donné une cote négative. C'est que l'évaluateur a compris que l'université n'avait pas encore toutes les marques de viabilité qu'il faut pour qu'elle fonctionne. Et le ministre a pris un arrêté d'annulation.
Oh là là.
Oui, déjà une année après.
Est-ce que ce n'était pas prématuré pour lui de tirer de telles conclusions? Parce que l'avenir a prouvé le contraire, évidemment.
Oui. Bon, c'était un problème de politique, de gestion, en tout cas de la manière dont le gouvernement pensait organiser les choses. Parce qu'à ce moment, nous avions des grandes universités, les trois universités du pays, de Kinshasa, de Lubumbashi,
Kisangani.
Alors on voit une université sans ressources qui doit commencer. L'université, au terme d'une année, a été suspendue, annulée. Mais notre recteur, le premier recteur, c'est toujours le concepteur du projet qui a été appelé à diriger l'université. Il ne s'est pas fatigué. Il a continué et il a converti cette université publique en université privée.
Ok.
Oui. Donc de 94 jusqu'à 97, l'université de Kindu a fonctionné comme une institution privée d'enseignement supérieur universitaire.
Pour échapper à la suspension.
Oui, oui. Bon, elle n'a pas échappé à la suspension. Mais pour échapper, à cette histoire qui l'amenait à ne pas fonctionner comme il faut comme université. Pour continuer son œuvre, quoi. Alors, 3 ans durant, si pas 4, l'université n'a pas fonctionné comme institution publique. Il est resté comme ça. Heureusement pour Kindu, en 97, il y a eu un arrêté contraire. L'arrêté 97, vous vous rappelez que c'était la période de guerre.
De l'AFDEL. Avec Mzé Laurent Désiré Kabila.
Oui. Alors il y a eu des forces centrifuges et des forces centripètes qui ont joué en faveur de l'université de Kindu, qui a repris son fonctionnement à la suite d'un autre arrêté du ministre Augustin Rwakaïkar. Il a fonctionné cette fois-là, non plus sous le nom du centre universitaire du Maniema, au centre universitaire de Kindu, parce qu'à un moment, à partir de cette année-là, 97, l'université commencera à fonctionner comme une entité ou une extension de l'université de Lubumbashi. On travaillait ici, mais nos étudiants de médecine et de droit allaient étudier à Lubumbashi. Alors, en 2005, l'université a acquis son autonomie sous le nom de l'université de Kindu. Les choses ont commencé à marcher très bien parce que ceux qui allaient à Lubumbashi, à Kisangani, à Kinshasa, revenaient avec leur diplôme. Ça a donné de l'espoir. En 2011, une ordonnance sera signée par le président Joseph Kabila pour consacrer vraiment le statut de l'université de Kindu comme une véritable université qu'il appellera de lui-même comme la 4e université officielle de la République démocratique du Congo.
Ah, ça, c'est une grande promotion pour oui. L'université de Kindu. L'université a évolué tant bien que mal, faisant face à plusieurs problèmes qu'elle a su surmonter d'ailleurs. Alors, nous en étions au niveau des doctorants.
Oui.
Vous m'avez dit qu'il y a 111 doctorants.
Il y a maintenant, à ce jour, 111 doctorants. Nous avons 22 professeurs locaux. Nous avons 223 assistants et chefs de travaux. Nous avons 640 agents du PATO, donc le personnel administratif, technique et ouvrier.
Ok.
Et nous avons, à ce jour, je vous parle de l'effectif de ce jour.
Tout à fait.
Nous avons 5200 quelque chose d'étudiants, filles et garçons confondus.
Vous savez que l'éducation des filles, ça devient de plus en plus une priorité tant nationale qu'au niveau local des provinces. S'il fallait donner une estimation en ce qui concerne les filles, sur les 5000 étudiants-là, le pourcentage des filles s'élèverait à combien à peu près?
C'est 30%.
30%.
Oui.
Et qui se trouve beaucoup plus dans quelle faculté?
Ah, j'ai pas fait attention à ça, mais normalement, aller voir, lorsqu'on les voit entrer dans les salles, c'est en médecine et en droit.
En médecine et en droit.
Et puis un peu en économie.
Est-ce que à partir de ces indicateurs-là, vous pouvez dire que la situation de la fille, de la jeune fille du Maniema est prise au sérieux en quittant évidemment toutes les pesanteurs traditionnelles qui retenaient la jeune fille avec les mariages précoces, les grossesses précoces, mais qu'aujourd'hui au Maniema, il y a plus ou moins cette conscience de laisser les filles aller à l'école?
Il y a une réelle révolution, monsieur Alain Irungo, au Maniema. Le Maniema est mis sous le joug de la religion musulmane qui n'accorde pas tellement de l'importance à l'éducation des filles. Mais là aussi, il y a des incitations actuellement ici à pousser les filles à aller à l'école parce qu'ils ont compris l'importance de l'éducation des filles, mais aussi ils ont compris que la fille est aussi intelligente que le garçon. La fille peut prendre en charge sa famille, c'est ça l'objectif en tout cas qui motive ce changement de cap au Maniema. Et petit à petit, le monde est en train d'évoluer, le monde maniémien, dans le sens d'accorder à la fille, en tout cas, son droit qu'elle a, d'évoluer au même titre que son frère ou le garçon. Donc, ces appréhensions-là, qui accordent au garçon
la prééminence.
Oui, la prééminence d'être prise en charge par la famille est en train de battre en retraite. Actuellement, c'est comme ça.
Dans plusieurs universités à travers le pays, il est déploré la question des points sexuellement transmissibles. Actuellement, on parlerait même des points politiquement transmissibles. Des filles qui sont harcelées, agacées par les professeurs. Le problème de la corruption. Comment est-ce que vous gérez ces aspects-là au niveau de l'université de Kindu?
Ces aspects font partie, en tout cas, des règlements. Règlements des étudiants. Nous avons même introduit une innovation dans la gestion de l'université cette année en nommant une conseillère de genre. Elle est là, elle travaille, elle a produit un opus où elle s'attaque à ces genres d'attitudes, d'antivaleurs. Elle a produit cet opus là où elle parle même de l'habillement des garçons. Elle entre aussi dans les auditoires, elle organise certaines rencontres pour les étudiants afin de leur faire voir que la fille a autant
de droits,
de chances d'étudier comme eux les garçons. Et il y a des instructions que nous sortons, des sanctions que nous proposons pour amener les garçons à respecter les études des filles.
Professeur Deogracias Kimenya, c'est une innovation. Hein?
Ouais.
C'est la première fois que j'entends que dans une université, il y a une conseillère chargée du genre. Est-ce que vous pensez que ça a apporté un plus dans cette sensibilisation de donner à la jeune fille sa place dans l'université?
Oui, parce que les étudiantes travaillent maintenant sans problème. Elles viennent en grand nombre relativement aux garçons, et puis elle termine sans problème. Mais seulement, il y a une difficulté, c'est que même si la fille se sent harcelée, soit par le professeur, soit par son collègue, mais par respect à sa personnalité, souvent, elle ne dénonce pas le mal dont elle souffre. Nous avons constaté pour certains cas, bon, petit à petit, on les moralise pour qu'elles dénoncent, afin qu'on sanctionne ceux-là qui les harcèlent.
Comment se présente la grille des frais académiques? Est-ce que pour une province comme le Maniema, une ville comme Kindu, est-ce que ces frais académiques sont à la portée de la bourse de la population ici?
Pas du tout.
C'est très élevé?
Non, c'est pas élevé. C'est pas à la portée de la bourse même de leurs parents. Ils disent que le pouvoir d'achat de leurs parents est tellement bas qu'ils comprennent que ces montants-là qu'on leur demande, c'est le montant qu'on demande ailleurs. Et c'est même moins qu'ailleurs. Mais ils n'ont pas les moyens de faire autrement pour qu'ils étudient en masse. Il y en a qui sont à la maison, qui ne viennent pas et qui peuvent même avoir déjà obtenu leur diplôme d'État. Ils l'ont décroché, mais il faut le toléka. La moto ici, ils sont nombreux parmi les motards, mais ils ne viennent pas.
Et ces frais s'élèvent à combien si ce n'est pas un secret, évidemment?
Non, ce n'est pas un secret. Les frais s'élèvent généralement à $300.
Pour toute l'année.
Payables en francs congolais ou en dollars? Pour toute l'année,
sauf en médecine.
Oui, pour les 6 facultés, il n'y a que la médecine qui paye $400 en raison de la spécificité de leurs études, parce que ça demande des frais supplémentaires.
Vous avez une faculté d'agronomie, faculté de médecine. Est-ce que vous avez les laboratoires et toutes les infrastructures qui vont avec pour ces genres de facultés qui sont assez particulières?
Nous avons des laboratoires en médecine. Il y a le labo d'anatomie, il y a le labo de physiologie. Nous avons aussi des labos en agronomie, un laboratoire de zootechnie, un labo de phytotechnie. Et nous attendons d'avoir un labo de sciences de l'information et de la communication, une radio et une télévision. C'est dans nos prévisions budgétaires.
En visitant l'université de Kindu, félicitations, j'ai vu que vous avez de très infrastructures, hein,
oui.
De belles salles, salles de promotion. J'étais là-bas à la faculté de SPA, d'agronomie, j'ai vu.
Merci beaucoup.
C'est très beau et c'est très bien entretenu. Félicitations encore.
Oh, merci.
Mais est-ce que le Maniema est une province enclavée? Actuellement, au moment où nous parlons, l'avion reste le seul moyen de transport. Est-ce qu'avec les professeurs visitants, ça ne vous pose pas quelques soucis?
Si, en tout cas, c'est le ventre mou de notre gestion. Parce que ces professeurs-là, les professeurs visiteurs, ils doivent venir ici et rentrer par avion. Ça nous coûte énormément cher. Mais il faut faire avec. Et quand on fait comprendre ça aux étudiants, parce que sur le plan économique, les parents ne leur donnent pas assez de moyens pour être là. Les parents, la plupart, sont aussi des fonctionnaires chez nous. Et c'est chaque mois qu'ils introduisent des demandes pour obtenir une dette. Pour obtenir un reçu solde. Le reçu solde, c'est pour nous une stratégie consistant à permettre à l'agent de prendre l'argent chez un étudiant ou lui-même de venir chercher une opportunité pour payer à la fin de l'année. Ou chaque fois qu'il a quelque chose, il vient, il donne, parce qu'il est notre agent. Lorsque nous payons la prime locale, on s'arrange pour qu'on lui retire quelque chose. Et petit à petit, ça va comme ça. Et nous pensons que c'est une solution à ce problème-là.
Maniema, 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 Jokwete. Maniema, solidarité Kambelembele. Karte sime koche, tujenge kwetu, umoja ni nguvu. Maniema, 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 Nyokwete. Les rassembleurs, Docteur Kiko Penetjes, Honorable Patrick Elupia, Kamele Mele Moulunga Chalere, Choka Ilungula, Mubinu Kamakia, Maniema Kutoke Boye. Honorable Getride Kitembo, Ashka Noble, Honorable Ngindamba. Inspecteur Toubouko, Alima Fitriko, Docteur Nicolas Choukou. Kwetunjo Maniema, Kwetunjo Maniema, Kwetunjo Maniema, Maniema Kutoke Boye. Solidarité Kambele Mele, Sisi Tuna Songa Mele, Kumonja Ninguvu. Son Excellence Ogi Musafiri Nkola, Maniema ni moya na umoja ni nguvu. Kila mtu na kwabo, kila mtu na kwabo, kila mtu na kwabo, kwetu njo Maniema. Le Patriarche Alexis Tambwe Mwamba, Honorable Freddy Tababikwa, Honorable Sombe Nyama, Docteur Kiko Penetjese, Honorable Bukanga Riba, Honorable Njolo Kobate. Honorable Pierre Walubangia, Mokubwa Jeff Chomba Fariala, Sénateur Matata Ponyo, Honorable Didi Manara, Sénateur Jérôme Bikenge, Kwetunjo Maniema, Maître Serafin Opango, Honorable Omana Bitika Pascal, Excellence Shadari Mulanda, Excellence Matenda Kelu, Excellence Jacques Yuma, Mukuye Tujenge Kwetwe, Excellence Amadi Lubenga, Kwetwe, Mama, Maître Michel Jambauka, Kwetu, Maître Jiste Kamango Tavena, Maître Emile Hassani, Kwetu, Mukuba Kitubia. Sénateur Jean-Baptiste Soumani Kwete, Honorable Bouchiri Makola, Solidarité Kambele Mbele, Umoja Ninguru, Kwetu Kwe, Maniema Kwetu,
kutokeboye kwetu kwe
kartesima
na leta mambo kwetu kwetu wa George Okanda kuya kwetu kujenga kwetu manyema yetu manyema paradi ya Kongo huku kwetu unakuwa kila kitu kukuye tujenge.
Le général Amissi Kumba dit Tangofa T4 Urbain Soumaïli Moïse Mautela Ingénieur Pierre Lodi Kamasong Moïse Bukasa
Manye Maye Tatupenda Vita Tatupenda Ubakusi Kukuwe Pamoja Tendeleche Manye Maye Tue
Honorable Thierry Babusunu Maître Jovi Tengongo
Excellence Lukunji, Honorable Kokonyanga, Honorable Makengo, Saina Enea, Ambassadeur Thomas Saidi, Mouya Kwekwe, Directeur Jérôme Assoumani, Ingénieur Serge Leteta, Moukouba Pamphile Tambe, Kwabona Moutou, Ni Kwabona Moutou.
Le grand témoin.
Aujourd'hui, grand témoin reçoit le professeur Deo Gracias Kimenya. Il est recteur de l'université de Kindu dans la province du Maniema. Un autre problème, c'est celui de l'électricité et de la connexion Internet. On sait qu'actuellement, les étudiants, c'est des recherches sur Internet, sur tel moteur de recherche et tel autre. Mais la ville de Kindu est presque dans le noir. L'électricité pose problème. Comment vous vous y prenez?
C'est pour vous dire, monsieur Alain Irungu, que nous avons des réelles difficultés. Un comité de gestion qui n'a qu'une seule source de production, les frais académiques. Et quand ces frais académiques sont pour la plupart, donc pour le gros, utilisés pour les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, c'est aussi l'énergie électrique, l'énergie photovoltaïque qui nous aide beaucoup avec la technique qui est développée aujourd'hui, d'utiliser
les panneaux solaires.
Ça nous aide énormément. Notre plus grande source de perte de recettes, c'est au niveau de l'énergie. Nous faisons avec, nous n'en pouvons rien. Nous avons reçu la mission gouvernementale de faire étudier les étudiants. Et tout ça fait partie des rubriques dans les prévisions budgétaires. En tout cas, on se bat pour arriver à trouver les moyens afin de faire fonctionner notre université. Dieu merci, nous fonctionnons. Et lorsque l'année s'arrête, tout s'arrête. Nous attendons l'année prochaine.
Pour recommencer le même cycle.
Pour recommencer le même cycle.
Alors, un autre défi par rapport à l'université de Kindu, c'est la route. Oui. La route de Luama, une route qui est en terre battue. Et je présume que quand il pleut, pendant la saison des pluies, ça doit être vraiment un problème très sérieux. Quels sont les efforts que l'université fait ou le plaidoyer pour que cette route soit asphaltée, par exemple?
Asphaltée, selon les techniciens, les spécialistes, asphalter 1 km, ça fait 7 km, si pas plus. 1 km pour l'asphalter nécessite $1 million. Notre budget n'atteint même pas $300 000. Bon, imaginez-vous, nous sommes à un tiers de ce qu'il faut pour asphalter 1 km. Où est-ce que nous allons trouver ces moyens-là? Tout ce que nous faisons, c'est utiliser nos ressources physiques. Nos étudiants, ils sont en train de peiner pour étudier ici. C'est pour dire que, en tout cas, ils ont besoin d'achever leurs études, d'étudier. Vous êtes arrivé à un bon moment, mais vous constatez que la route n'est pas en bon état. Les bons moments, c'est nous. Une route en terre battue, lorsqu'il ne pleut pas, lorsque la saison sèche n'a pas encore donné ses effets, à tout moment, nous sommes en difficulté. En saison de pluie, nous n'arrivons pas, nous-mêmes, les enseignants, parfois, atteindre nos auditoires, même les professeurs visiteurs. À ce moment-là, l'eau monte à une hauteur qui dépasse la hauteur des pneus. Ici, tout près de chez nous, ici, nous avons un ruisseau qu'on appelle l'Ouama, qui a donné son nom au quartier. Lorsqu'il pleut abondamment, les étudiants qui veulent bien venir au cours, ainsi que les enseignants, s'obligent de venir comme ça. Ils entrent dans l'eau, où ils se font transporter à même le dos. Et vous connaissez les initiatives des sans-emploi, nos jeunes qui n'ont pas d'emploi, lorsqu'une telle situation arrive,
ils en profitent.
Ils viennent là-bas pour faire leur job, transporter les passants sur le dos. Et ça se passe comme ça. Lorsque nous sommes dans la saison pleine, sèche, c'est la poussière qui nous amène aussi des maladies.
Effectivement, nous avons dû nous munir de cache-nez pour arriver ici, à cause de la poussière.
Oui. Et puis, ce projet-là de construction de la route, lorsqu'on voit les autorités locales, ils nous disent que c'est leur devoir de nous aider. Mais ils n'ont pas les moyens, c'est pas notre devoir, à nous. Même si nous avons quelques moyens, nous avons essayé une fois d'utiliser la procédure de cantonnage manuel. Et nous avons reçu cette critique-là de ceux qui savent que le travail de la route appartient à l'État.
À l'État.
Ouais. Si nous avions les moyens, on pourrait le faire.
Florence Kizalunga.
Alors, professeur, on va parler de vous-même. Professeur de Kwasas Kimenia, quel type d'enfant étiez-vous?
J'étais un enfant leader d'abord, parce que dans plusieurs organisations d'enfants, on ne peut pas appeler ça organisation, mais groupe d'enfants ou agrégat d'enfants, j'étais toujours leader, j'étais toujours suivi. On dirait que j'avais le sang de regrouper mes amis. Et j'avais difficile à rester longtemps dans un regroupement si je n'ai pas créé le mien. Et c'est ainsi que partout où je suis passé, j'ai été souvent le porte-étendard, disons le bout en train, le premier du groupe. Même dans les associations des enfants comme les Louveteaux, facilement je devenais chef. J'étais Louveteau et un jour nous étions dans une retraite. Là c'était ici à Kindu et un collègue m'a réveillé parce que j'étais en train de dormir. Il me dit, mais on est en train de parler de vous. Hein? Comment vous continuez à dormir? Je dis, c'est quoi? De quoi s'agit-il? Il dit, on cherche le chef de groupe qui doit remplacer celui qui n'est pas venu. Parce que notre premier cisénier n'était pas... Je n'étais même pas cisénier. Ce sont des termes de scouts, de Louveteaux. Le cisénier, c'est le chef d'une cisène. Donc, des six Louveteaux. Alors, le premier cisénier, c'était celui qui patronnait, en tout cas, toutes les cisaines. Il n'est pas venu, j'avais mon cisainier, donc mon chef, mais j'étais au milieu d'une cisaine, là. Et curieusement, quand on discutait de la personne qui devait le remplacer, j'étais désigné. Sur base de quoi? Je ne savais pas. Donc, j'avais certaines ressources qui faisaient que je sois toujours désigné, et même dans ce que j'ai constitué comme association, j'étais toujours... ou d'autres associations, j'étais toujours plébiscité comme leader. Et j'étais suivi. Voilà, j'ai été aussi un enfant curieux. Au début, là, je pensais que je devais faire les sciences infirmières, je pouvais devenir infirmier. Mais avec le temps, je suis devenu ce que je suis. Et même dans le monde professionnel, j'ai toujours joui d'une certaine considération, souvent, qui fait que je sois toujours élevé au rang supérieur, si ce n'est pas directement inférieur par rapport au chef.
Alors, professeur, en ce qui concerne vos voyages, vous êtes seulement limité au Congo?
Non, madame, j'étais gratifié par le Seigneur de cette grâce, excusez ce rabâchage, de voyager à travers le monde. J'ai fait beaucoup de voyages. J'ai voyagé dans notre pays, j'ai visité des coins et des recoins, mais là, je peux tout simplement vous dire que au Congo, j'ai visité toutes les provinces. J'étais dans toutes les provinces. Et c'est ma profession qui m'a conduit à cette réalisation-là. En Afrique, j'étais dans plusieurs pays. C'est encore ma profession parce que quand j'étais au ministère de l'enseignement supérieur universitaire, j'ai pu avoir l'opportunité de représenter mon ministre dans plusieurs pays. J'étais en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, j'ai pu visiter Johannesburg, Pretoria, et même le Soweto, j'étais là. J'étais en Ouganda, j'étais au Rwanda. Ouganda, c'est Entebbe et Kampala. Au Rwanda, en tout cas, j'ai visité la plupart des villes rwandaises, proche de Goma. J'étais aussi dans tous les pays frontaliers, aussi bien à l'est. Je n'ai pas parlé de la Tanzanie, j'étais aussi en Tanzanie. J'étais aussi dans les approches avec l'Angola, à Loufou. J'étais en République centrafricaine. En tout cas, tous les pays frontaliers, pratiquement, je les ai visités. En dehors de pays frontaliers, j'étais en Éthiopie. J'étais aussi Maputo, j'étais également au Botswana, en Afrique du Nord. J'étais aussi en Somalie, j'étais aussi à Lusaka, en Zambie. Donc, en tout cas, l'Afrique, je l'ai visitée dans une bonne partie du territoire africain, quoi. Au monde, c'est la même chose. J'étais en Europe, j'étais en Asie. Donc, en Europe, j'ai visité la France. Par trois fois, j'étais en France. J'ai visité également la Belgique. D'ailleurs, la Belgique, c'est à quelques encablures par métro de la France, à Paris. J'étais aussi aux abords de Londres. Donc, Londres, je dirais. J'étais dans le territoire anglophone, londonien, quoi. Parce que j'ai dû visiter l'université de Londres. Mais c'était pour juste un voyage aller-retour. Et je suis revenu parce que j'étais curieux d'aller visiter l'université de Londres. En Asie, j'ai été en Chine, j'ai été également en Corée du Sud, où j'ai visité Séoul, Daejeon. C'était dans le cadre de la recherche scientifique. En Europe, j'ai oublié de parler de la Turquie, parce que la Turquie se considère de plus en plus comme étant un pays européen, non comme un pays asiatique. J'ai été également en Russie, à Moscou, toujours dans le cadre de recherche scientifique. Et voilà globalement les pays que j'ai visités à travers le monde.
Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter aujourd'hui comme l'une des plus grandes bêtises que vous ayez commises dans votre enfance?
Vous me faites rire, monsieur Alain. La plus grande bêtise que j'ai commise dans mon enfance, j'aimais beaucoup les bananes. Je me trouvais à Goma, à Gisenyi, donc les milieux environnants à Goma. On vendait des bananes à vil prix. Et chaque dimanche, dans le groupe, on allait là-bas. Nous arrivons le jour que Abiyarimana devait prêter son serment. Il l'a fait à Gisenyi. C'était pour nous, en tout cas, un mauvais jour. Parce qu'on ne pouvait pas atteindre le marché. Le marché, on l'atteignait après avoir traversé la zone de l'administration locale. C'était bloqué. Il a fallu qu'on détourne, qu'on passe à côté. Et quand on passait à côté, c'était derrière ce bureau de l'administration locale des Rwandais. Ils ne parlaient ni français, ni anglais, ni swahili, ni lingala. Ils ne parlaient que le kinyarwanda. Nous nous sommes dit que bon, nous pouvons entrer. Avec mon jeune frère, on est passé par derrière. Et puis du coup, quelqu'un surgit pour nous dire, il nous fait signe. Il
a vous arrêté.
Nous, on a compris qu'ils n'agréaient pas ce que nous venions de faire. Ils nous ont pris. Et ils ont commencé à nous frapper.
Oh là là.
Ouais. Nous avons accepté ce qui nous a été imposé. Mais à un moment, j'ai dit à mon jeune frère, parce qu'il faisait le tour, ce policier-là, méchant alors. Il fait le tour, passant devant nous, il nous frappe. Quand il fait encore le tour, quand il passe devant, il nous frappe encore. J'ai dit à mon jeune frère, est-ce que nous allons continuer à subir ces martyrs ici? Est-ce que nous ne pouvons pas faire appel à nos jambes et partir
le plus vite?
Ouais. Il m'a souffert pour dire que si on nous attrapait, ça sera... Je lui ai dit, nous partons. Nous sommes des footballeurs, non? Et nous avons détalé de là, monsieur.
Sans dire au revoir.
À quelques mètres, nous sommes dit que bon, à cette distance ici, nous sommes déjà sauvés. Mais nous devons rentrer au marché. Nous devons rentrer au marché pour manger les bananes.
Parce que à tout prix.
Ce qui nous arrive, c'est
à cause des bananes.
Nous avons escaladé une montagne là pour descendre jusque là. Là où Abiyarimana faisait son meeting. Nous avons acheté les bananes, nous avons mangé, nous sommes rentrés à la maison. J'ai dit, tu ne parles pas à la famille, ça. Tu t'étais complètement. C'était ça une mauvaise aventure que nous avons connue. Mais quelques années après, le petit vendra la mèche. On nous a frappé. Voilà une des aventures.
Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer comme bon souvenir dans votre enfance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous prédestinait à ce que vous êtes devenu aujourd'hui?
Oui. J'étais brillant à l'école et mon oncle, cette fois-là j'étais chez l'oncle, disait toujours à ses collègues que je suis très fier de l'enfant de ma sœur.
Vous pouvez le tester d'abord, ne fût-ce que par une dictée. Alors l'un d'eux m'a seulement parlé, dit, prends une feuille de papier. J'ai pris la feuille de papier, dit, je te dicte quelque chose. Je vais vérifier ce que ton oncle vient de nous dire. Il m'a dicté deux paragraphes. Je lui ai remis le papier, quoi. Il a vérifié, c'était une dictée sans faute, monsieur Aléro. J'étais en cinquième année primaire. Un autre jour à Goma, mon grand frère cherche à savoir la capitale de Dahomey. Dahomey, c'est maintenant le Bénin. Il était là avec ses collègues, il buvait, mais ils avaient des problèmes pour connaître la capitale de Dahomey. Je sortais, il dit non, lui il peut savoir la capitale. Mais il dit, Déo, la capitale de Dahomey, c'est quoi? Il dit que c'est Porto Novo, ce qu'on appelle aujourd'hui
Cotonou.
Cotonou. Et j'étais applaudi. Donc il m'appréciait aussi. Et si je pouvais avoir la possibilité d'aller plus loin, en tout cas, je serais arrivé à ça.
Dans la suite de votre cursus, l'école secondaire, c'est où que vous la faites et puis à l'université?
L'école secondaire, comme je vous avais dit, je l'ai fait en plusieurs parts. D'abord, c'était à Kasongo, puis Kindu, Kalima, Bukavu, Goma, partout là-bas.
Et c'est quelle option que vous faites au secondaire?
J'avais l'intention de faire la section littéraire. Mais mon grand frère à Goma, là où j'ai commencé ma troisième année, me dira que non, vous ne faites pas la littéraire. Ou bien vous faites la section scientifique, ou vous faites la section pédagogique. Je lui ai dit que je n'étais pas fort, et il le savait, en mathématiques, en physique. Je préfère alors faire la section commerciale. J'ai commencé la section commerciale, mais après un moment, je suis parti de là pour aller à Shabunda et Mwenga, parce qu'il fallait toujours suivre
les grands frères,
les tuteurs. Et là, il n'y avait que la section pédagogique. Voilà comment j'ai fait la section pédagogique. J'ai terminé en pédagogie générale et j'ai continué ma pédagogie jusqu'à l'université.
Et vous vous êtes spécialisé dans la suite, dans quel domaine exactement?
Je suis toujours dans les sciences de l'éducation. C'est ça mon domaine.
En grandissant, on a parlé du football, on a parlé de ses aventures d'enfance. C'est quelle musique qui vous a bercé dans votre enfance?
Oh, ça c'est une belle question. La musique, j'aimais bien Bella Bella.
Avec les frères Soki.
Ouais. J'aimais aussi la musique de Luambo, curieusement. Disons que toutes les musiques m'affolaient, mais j'aimais plus Bella Bella. Et aujourd'hui, je continue aussi à aimer Fally Ipupa.
Ah, aujourd'hui, ouais. Vous êtes modernisé.
J'aime aussi Dadju,
okay.
Et son frère
Gims.
J'aime bien la musique. J'ai même chanté à l'université.
Dans l'orchestre universitaire.
Oui, dans l'orchestre student band de l'université de Kisangani.
Ah, et là, c'était quelle voix?
Ténor.
Ténor.
Ouais.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous chanter comme
non,
ça?
Non, je vous en prie.
Oui. Merci beaucoup, professeur. C'est une belle expérience que vous nous partagez.
Aïe! Animation.
Tout le monde les voit.
tête, mais j'aime ça.
Madame Caroline Mbushinge, mon général Diawara à Bamako,
témoin.
Grand témoin reçoit le professeur Deo Gracias Kimenya. Il est recteur de l'université de Kindu dans la province du Maniema. Pour terminer cette émission, il y a beaucoup de jeunes de cette province certainement qui ont perdu l'espoir, qui se disent que la province du Maniema ça n'ira pas, comme on l'a dit tout à l'heure, qui deviennent motards, qui deviennent commerçants sur le fleuve. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette jeunesse du Maniema qui vous suit en ce moment? En guise de message de conclusion pour terminer cette émission.
En conclusion, j'ai d'abord, en tout cas, la tristesse de m'adresser à ma jeunesse pour lui dire qu'elle manque de repères aujourd'hui. La jeunesse du Maniema, comme toutes les jeunesses du pays, en tout cas, a plus de tendance de verser dans les antivaleurs. Partout ici en ville, les jeunes se regroupent dans le rond-point. Juste pour, en tout cas, se comporter comme des voyous. Nous avons fait une recherche ici parce que moi, je m'intéresse à l'éducation à la paix. Et dans l'éducation à la paix, il y a plus les aspects en rapport avec la lutte contre la violence et puis la gestion des conflits. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai même mené à Kinshasa des bonnes études sur la violence urbaine des jeunes Kuluna. Là.
Les Kuluna.
Ouais. Je me suis dit qu'il faut que j'aille rencontrer un commandant pour que je cherche. Il mette à ma disposition des données en rapport avec ma recherche. Mais malheureusement, il a été muté je ne sais où. Et quand je l'appelais au téléphone, il me disait, je vais vous envoyer ça. C'est un ouvrage que j'étais en train d'écrire sur la violence urbaine. Alors nos jeunes, ceux qui ne vont pas aux études, font la violence. Ceux qui sont même à l'université ici, ils font la violence. Ils sont rares ceux-là, en tout cas qui se comportent comme de vrais citoyens. Alors le message que je vais leur prodiguer, c'est tout simplement de leur dire que la violence n'amène à rien. Il faut que chaque jeune se préoccupe de sa vie future. Au lieu de se comporter comme ils le font aujourd'hui, à la maison, il a un comportement, une conduite quelconque, mais quand il sort de la maison, il se comporte autrement. Et puis, ceux qui compromettent la vie de leurs collègues, ce sont des plus jeunes. Les plus jeunes donnent des leçons à ceux qui sont leurs aînés. Non, les moins jeunes donnent des conseils à leurs aînés. Et c'est bien dommage. Les parents ont perdu, en tout cas, leur impact sur
leur autorité.
La jeunesse, leur autorité. Alors, si cela continuait, une fois même, je suis allé jusqu'à l'hémicycle provincial, donc à l'Assemblée provinciale, et si dire au président, est-ce que vous ne pouvez pas voter des édits pour contrer cette violence que nous observons toujours dans les lieux de deuil? Dans les lieux de deuil, vous trouvez les jeunes, parce qu'il y a toujours des prédicateurs qui nous apportent la bonne nouvelle, pour apporter un réconfort à ceux-là qui ont perdu le leur. Mais il est en train de parler, ce sont les jeunes qui le narguent. Et ces jeunes-là, on pourrait même se demander des insanités si celui-là a reçu une éducation quelconque dans sa famille. Les parents sont même incapables d'apporter un conseil à leurs enfants parce qu'ils craignent même que ces enfants se retournent parce que la plupart sont infirmières de chambre. Ils craignent qu'en donnant un tel conseil ou bien en punissant les enfants, la réaction sera telle qu'ils peuvent un jour regretter de les avoir mis au monde. Alors, je demande à nos jeunes de suivre la bonne parole. L'église, les associations des jeunes sont des lieux où ils peuvent, en tout cas, se remettre en question pour contribuer au développement de la nation, au développement de leur propre personne.
Professeur Deo Gracias Kimenia, je rappelle que vous êtes recteur de l'université de Kindu dans la province du Maniema. Merci d'avoir reçu Grand Témoin, de nous avoir reçus dans votre bureau, de nous avoir accordé de votre temps.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Aleiro. Je remercie aussi votre sœur, ma fille
Florence
Kiza. Je remercie tous les auditeurs de la radio Okapi, la merveilleuse radio du pays. Je remercie aussi la radio Okapi elle-même.
Merci beaucoup, professeur. Mesdames et messieurs, Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. À la présentation, Alain Rung-Mouchige, supervision Jean-Marc Matouaki. Merci à Florence Kizalunga qui m'a accompagné. Vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission et beaucoup d'autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radiokapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.